L'apôtre Jean a une révélation, d'ailleurs Apocalypse ça veut dire révélation, a une révélation extraordinaire de Jésus-Christ. Peut-être quelques considérations générales en introduction par rapport à ce livre. Ce livre a été donc écrit par Jean, par une révélation que Jésus lui a accordée à la fin du 1er siècle de notre ère. Alors il y a deux hypothèses, soit ce serait sous le règne de Néron entre 68 et 70, soit plutôt autour de 98 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien. Peu importe, c'est dans la deuxième partie en tous les cas, certainement au moins dans la deuxième partie du 1er siècle. Plusieurs décennies se sont donc écoulées depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à la révélation donnée et confiée à l'apôtre. Ce livre, c'est important, n'a pas été écrit pour le monde. Il n'a pas été écrit pour les incroyants. Mais il est adressé aux chrétiens, et plus particulièrement aux serviteurs de Jésus-Christ. Voyez verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, beaucoup de livres sont écrits et sont... Le livre de l'Apocalypse est particulièrement, j'allais dire presque exclusivement, même si le monde l'utilise, ils peuvent en faire des films et autres, mais ils n'en ont pas l'interprétation, ils ne peuvent pas en retirer ce que les chrétiens peuvent en retirer. Il est vraiment adressé à l'Église et particulièrement à ses serviteurs. Le texte original ne dit pas ses serviteurs, mais ses esclaves, c'est-à-dire ses témoins, ceux qui sont engagés, qui sont fidèles, même jusqu'à la mort. Il a été révélé à l'Église fidèle, non pas pour l'effrayer. C'est vrai que quand on lit l'Apocalypse, bien des personnes et bien des chrétiens même sont un peu effrayés, ou angoissés, ou attristés, ou plongés dans la confusion quand ils ouvrent ce livre. Parfois même certains peuvent ne pas le lire, ou commencer juste à lire le début, jusqu'au chapitre 3 par exemple. Mais au contraire, bien au contraire, Jésus donne cette révélation à l'apôtre Jean, et donc à l'Église, pour l'encourager, pour la réconforter, la rassurer quant à son avenir éternel, qui est glorieux, et quant au juste jugement qui va tomber sur le monde, sur les hommes et les femmes qui refusent le salut offert en Jésus-Christ, et qui refusent également le témoignage de ses saints sur la terre. Ce livre de l'Apocalypse est appelé à procurer une grande joie aux fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Vous voyez, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » On le voit, ce n'est pas seulement celui qui lit ou celui qui entend les paroles de la prophétie, c'est-à-dire de ce livre, mais ceux qui gardent les choses qui y sont écrites, car il est dit « le temps » est proche. Et effectivement, il faut garder ces choses, une parole prophétique. Jésus le dit, je viens bientôt, Apocalypse 22, 7, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre, d'ailleurs, n'a jamais été apprécié autant que par l'Église persécutée. Partout dans le monde où l'Église a connu et a vécu des temps de persécution, l'Apocalypse a été une source d'encouragement et de réconfort. Et peut-être là où l'Église s'est entiédie, où c'est mondanisé, l'Apocalypse est au contraire un livre un petit peu obscur, un peu barbare, et en tous les cas pas une source d'encouragement. Mais le but en tous les cas, pour tous les chrétiens authentiques, fidèles, qui marchent avec Jésus-Christ, c'est que ce livre soit vraiment une source d'encouragement. Donc je vous encourage à lire et à méditer l'Apocalypse, parce qu'il est dit « heureux », ça fait partie des béatitudes quelque part, « heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement lire, mais il faut garder ces choses-là dans notre cœur. Il faut les repasser. Et si on a du mal à comprendre, il faut demander au Seigneur de nous éclairer pour comprendre. Ça va nous aider profondément dans ce que nous avons à vivre sur cette terre. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Mais Dieu nous appelle à vivre des choses du ciel, tout en étant sur la terre. À quel moment l'apôtre reçoit-il cette révélation? Est-ce que c'est au moment où il est... j'allais dire au mieux, au top de sa forme spirituelle? Est-ce que c'est toujours dans les moments où on est le mieux? En tous les cas, on pense être le mieux spirituellement, on pense être le plus productif, le plus actif, que Dieu nous accorde forcément ses révélations, ses grâces. En tous les cas, pour l'apôtre Jean, ce n'était pas le cas, parce que c'est un moment où il est rejeté, il est exclu de la société, il est persécuté, il est emprisonné pour sa foi, pour sa fidélité à la parole de Dieu. Vous pouvez lire au chapitre 9, « Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance, en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage du Seigneur, à cause du témoignage de Jésus. » C'est un vieillard qui est emprisonné pour sa foi sur une île, comme un bagnard. Au niveau spirituel, la situation spirituelle, donc sa situation personnelle, elle est quand même, c'est un fidèle serviteur de Dieu, le voilà emprisonné, le voilà souffrant, mis à part, on va dire comme abandonné. La situation spirituelle, on va parler de l'état des églises. Jean a exercé son ministère pastoral probablement essentiellement à Jérusalem, même après la persécution de l'église de cette ville. On le voit dans Actes 8, 1, quand les chrétiens ont été, il y a eu une persécution au niveau de l'église, et les chrétiens sont partis, mais les apôtres, il est dit qu'ils sont restés à Jérusalem. Cependant, son ministère apostolique ne s'est pas limité à la ville de David à Jérusalem, mais il s'est étendu dans tout le bassin méditerranéen. Même s'il n'a pas implanté la plupart des églises d'Asie mineure, comme Paul en a certainement implanté beaucoup, Jean, lui, a probablement contribué à leur développement spirituel de différentes manières, directement, par ses visites, ses déplacements, on le voit dans Actes 8, 14, quand il se déplace en Samarie, mais également indirectement par ses écrits, par ses lettres. La Bible dit dans Éphésiens 2, 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc on voit que l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui est fondée, elle est bâtie sur, édifiée sur le fondement des apôtres. C'est-à-dire que ce sont les apôtres qui ont véhiculé, qui ont transmis le message de Jésus-Christ. Et nous, nous bâtissons dessus. Nous appuyons dessus et nous avons la parole de Dieu. Et nous ne construisons pas sur autre chose, nous appuyons sur la parole de Dieu. Et Jean fait partie de ces apôtres. Certainement a-t-il travaillé toutes ses forces et de toute son âme à l'édification des églises, à leur progrès dans la foi, afin qu'elles atteignent, comme il dit dans Éphésiens 4, la stature parfaite de Christ. Pourtant, aussitôt après avoir reçu la vision de Jésus glorifié, parce qu'on va le voir dans Apocalypse 1, du verset 12 au verset 1, l'apôtre Jean a une vision absolument stupéfiante de Jésus-Christ glorifié. Et là, quel choc, parce qu'il est dit qu'il est laissé comme mort. Pourtant, il connaissait Jésus. On peut penser, en lisant notamment les évangiles, que c'était celui qui avait la relation la plus proche avec Jésus, qui le connaissait de manière assez intime, Jésus homme. Mais là, quand il voit Jésus glorifié, il tombe comme mort, parce que c'est tellement loin du Jésus homme qu'il avait si bien connu, que là, il est complètement plaqué au sol. Tellement c'est glorieux. Et juste après cette révélation de Jésus glorifié, qui est extraordinaire, qui l'aplatit complètement, eh bien Jean va avoir la révélation de l'état des églises, une représentation de l'état des églises du 1er siècle, au niveau de l'Asie mineure. Et là, la situation réelle. Et là, effectivement, il a un choc certainement. Un choc certainement parce que quand on lit ce que Jésus va dire aux sept églises, on voit qu'à l'exception d'une, à chaque autre il a des reproches à faire et qu'on voit que finalement aucune n'a su garder son témoignage, n'a su tenir son rang intact. L'état spirituel des églises du 1er siècle, pourtant, ça ne faisait pas très longtemps que Jésus était monté en gloire. Eh bien, cet état, il est peu glorieux, pour ne pas dire plus. Et Jean, après tant d'années, tant de décennies de labeur, de travail, on peut s'imaginer quand il a d'abord Jésus, la vision glorieuse de Jésus, lui, sa situation qui est complètement, vous voyez, peut s'en sentir abattu, vous voyez, d'abord persécuté, abandonné, enfin, rejeté pour sa foi, même s'il savait que c'était ça. Jésus a dit, vous serez mes témoins, mes martyrs. C'est ce que Jésus a dit, il le sait. Mais cela dit, Jean-Baptiste aussi savait quelle mission il était, pour quelle mission il était là, ça ne l'a pas empêché de douter à un moment donné et de se poser toutes sortes de questions. Et là, quand il voit la vision de l'état de l'Église, des Églises, on peut imaginer son abattement, on peut imaginer tous les sentiments qui ont pu le traverser, abattement, découragement, sentiment d'échec, d'impuissance, d'abandon, à l'image de Gédéon, qui pouvait se poser les questions, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Jean avait déjà connu ce genre d'expérience dans le passé, au moment de l'arrestation de Jésus, de sa crucifixion. Ils se sont sentis tous abandonnés, comme des brebis qui n'ont plus de berger. Quand on les voit là enfermés, ils ont peur. Ils ont peur, Jésus a été crucifié, Jésus est mort. Ils ont peur des Juifs. Et heureusement, Jésus va apparaître là, au milieu d'eux. Mais ils sont tous recroquevillés. Ils avaient même repris leur travail. On les voit à un moment, ils reprennent leur travail séculier. Il dira, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous savez, les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais après tout cela, voici le troisième jour et ces choses nous sont arrivées. Et peut-être Jean a pu traverser ce genre de, a pu vivre ce genre de sentiment, de désillusion, espoir déçu, incompréhension spirituelle, qui sont, en parenthèse, souvent les plus terribles. Parce qu'on peut entendre d'être déçu par soi-même, d'être déçu par les autres, mais d'avoir le sentiment d'être déçu par Dieu, d'avoir le sentiment que Dieu nous a comme trompés ou abandonnés ou pas compris, c'est l'une des plus grandes blessures pour un chrétien. Ce sentiment, qui n'est pas une réalité, mais qui peut être un sentiment que nous vivons. Et c'est dans ces circonstances-là que l'apôtre Jean va avoir, dans le chapitre 4, on l'a lu, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte. » Et ce qui est intéressant dans le témoignage de l'apôtre Jean, c'est que malgré, moi je dirais, après cela, certes, après toutes ces choses, son propre témoignage à lui, ce qu'il vit, Jésus dans la gloire, et pas sur terre avec lui pour vivre son quotidien, la vision de l'église locale, avec tout son engagement et puis le résultat, finalement l'impression générale qu'il a, eh bien, après cela, malgré cela, il dit qu'il continue de regarder. Et je crois que c'est important. On peut vivre, et évidemment, Jean, c'est un type de l'Église fidèle à Jésus-Christ, et qui néanmoins peut vivre des persécutions, des abandons, des incompréhensions, mais qui est fidèle pourtant. Et ce qui est important, c'est comme Jean, c'est de continuer de regarder. Après cela, après peut-être ce qui t'est arrivé, mon frère, ma sœur, malgré ce qui t'arrive, malgré ces sentiments qui te traversent, de l'inaccessibilité de Jésus-Christ, de ce qui t'environne, de ce que tu vis toi intérieurement, de l'incompréhension par rapport à Jésus, malgré cela, après cela, continue de regarder, d'avoir toujours ce regard de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est seulement par la foi qu'on peut voir des choses. C'est par la foi que sur la terre, un jour, on verra Dieu et on verra et on comprendra comme on a été vu. On verra Dieu comme il nous a vus et comme il nous voit. On comprendra parfaitement, mais aujourd'hui, c'est par la foi que nous avançons. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est donc simplement par la foi, en toutes circonstances, que nous devons continuer à marcher, parfois simplement regarder. Ne plus regarder par la foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement ne plus croire. Abandonner finalement, on continue notre vie, mais on n'a plus cette espérance, on n'a plus ce regard, on n'attend plus rien de Dieu. On n'attend plus le secours. Donc on cherche par nous-mêmes, on pourvoit. On vit notre petit bout de chemin et on cherche par nous-mêmes. Mais on n'attend plus le secours qui vient seul d'en haut. Jean, lui, il continue de regarder, malgré cela et après cela. Eh bien, lui en a pris. Parce qu'il est dit que, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que quand on garde ce regard de la foi, eh bien, à un moment donné, on va découvrir que quand tout est fermé, quand tout peut être fermé autour de nous sur la terre, quand il n'y a plus de porte, plus de perspective, quand dans notre cœur tout semble fermé, qu'on est complètement recroquevillé, comme les disciples étaient recroquevillés dans la chambre haute, eh bien, si on garde ce regard de la foi, on va réaliser qu'il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. Peut-être sur la terre, c'est fermé, mon frère, pour toi, ma sœur. Mais dans le ciel, il y a une porte qui est ouverte. Amen. Peut-être tu t'es pris plein de portes fermées. Je connaissais un ami, il a envoyé plus de 400 CV pour trouver du travail. Plus de 400 CV. C'est terrible, ça. Pour beaucoup, il n'a pas eu de réponse, puis que des réponses négatives. 400 CV. Et je ne pense pas que ce soit une exception. C'est terrible. Alors ça, c'est sur le plan professionnel, ce qui est terrible. Mais ça peut être dans d'autres domaines. On se prend des portes et des portes et des portes fermées, des portes qui claquent, des refus, etc. Eh bien, sache, mon frère, qu'il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. Amen. Il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. Et le regard de la foi va nous permettre de la voir, cette porte. Cette porte, elle a été ouverte par Jésus. J'ai dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Quand Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré, de haut en bas, Dieu l'a déchiré, ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint. De telle sorte que, alors que seulement une fois l'an, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint et d'y ressortir très rapidement, en apportant du sang étranger, eh bien Jésus, il y est rentré avec son propre sang. Et en y rentrant, en accomplissant parfaitement le salut pour nous, eh bien le voile a été déchiré, de telle sorte que maintenant nous pouvons entrer. La porte est ouverte, la porte est toujours ouverte. Ce qui peut nous empêcher d'y rentrer et de voir cette porte ouverte, c'est notre incrédulité, c'est le fait qu'on n'avance plus par la foi. C'est le fait qu'on ait perdu ce regard, cette espérance. Et du coup, à ce moment-là, on est simplement un nouveau humain et on peut chercher à forcer des portes, à forcer des portes. Ce qui peut nous empêcher de voir la porte du ciel ouverte, c'est la propre porte de notre cœur qui est fermée. On le voit, c'est ce qu'il est dit par rapport à l'église de Laodicée, où il est dit que là, Jésus était dehors, il était à la porte et il frappait à la porte. Il était dehors, en dehors de l'église, comme il peut être en dehors de nos cœurs s'il n'y a plus cette foi vivante en Christ, cette espérance vivante. Le Christ est dehors et à ce moment-là, cette porte, elle est fermée. Mais c'est nous qui l'avons fermée. Du côté de Dieu, la porte, elle est ouverte. Et si nous gardons la fidélité à Christ, à notre témoignage, à notre engagement, eh bien, et en gardant cette foi, cette porte restera ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir tout ce qui doit arriver dans la suite. » Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement, vous savez, parfois vous voyez une porte, on peut voir une porte et puis appréhender, comment dirais-je, comme contempler des choses, mais ne pas pouvoir les toucher, pas pouvoir y rentrer. Ce n'est pas le cas. Là, il y a cette invitation « Monte en haut ». Et là, mon frère, il y a cette invitation, ma sœur, qui te dit « Monte en haut ». Peut-être tu vis des choses difficiles sur la terre. Et ce n'est pas encore le temps que le Seigneur te prenne. Un jour, ce sera le moment. Mais pour l'instant, tant que tu es là, ce n'est pas le moment. Donc, tu as des choses à vivre ici et des choses à vivre par la foi avec le Seigneur. Mais par contre, la première des choses à vivre par la foi, c'est de monter, de répondre à l'invitation du Seigneur, de continuer de regarder en direction du Seigneur et de monter, de répondre, de monter auprès du Seigneur afin de voir comme lui voit. Et de voir les événements de la terre, tes propres événements, ce que tu vis et ce qui se passe sur la terre, selon le regard de Dieu, avec la perspective de Dieu, avec cette dimension prophétique, parce que Dieu nous prévient. Et on peut le voir au travers de ce qui se produit au niveau des gouvernements, etc., au niveau de l'Europe, du monde, que l'accomplissement des promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. On pourrait vouloir les freiner, mais c'est pas... Non, il faut que le monde aille à son terme. Il faut que le monde aille à son terme. Parce qu'il a décidé ainsi. Mais nous, on ne va pas avec ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Et donc, on est invité, tout en étant dans ce monde, à vivre les réalités du royaume et à monter pour voir comme Dieu voit. Nous considérer comme Dieu nous considère. Considérer les événements de la terre comme Dieu les considère. Notre service, notre place, notre place ici, notre rôle ici, comme Dieu le considère. Et ça change beaucoup de choses, la perspective d'en haut ou la perspective d'en bas. Et Dieu t'appelle à monter, à répondre à cette invitation, pour voir les choses qui vont s'accomplir, ce qui vont se dérouler. Non seulement pour voir, pour comprendre, donc pour être apaisé. Mais en même temps, quand on continue de lire, il est dit... Autour du trône, verset 4, même verset 3, attendez, on peut lire, non, verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Ça c'est merveilleux. On a la possibilité d'être sur la terre, l'exemple de Jean, ce vieillard certainement meurtri dans son corps, prisonnier, qui est ravi en esprit. Nous avons la possibilité nous aussi d'expérimenter ça. De monter en esprit. Elle lui dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc c'est notre position, c'est la façon dont nous devons voir les choses. Aussitôt je fus ravi, je fus saisi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ça c'est merveilleux. C'est que quand on se laisse appeler par le Seigneur et qu'on monte, eh bien on découvre que dans ce chaos total, sur la terre, peut-être dans notre vie, eh bien, il y a quelqu'un. D'abord, il y a un trône. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui est là. Il y a une autorité qui est là. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce trône, il n'est pas vide. Il n'est pas vacant. Il y a quelqu'un sur ce trône. Il y a Dieu qui tient nos vies, particulièrement nos vies, qui lui sont tellement précieuses. La vie, les vies de ses rachetés. Mais qui tient également tout ce monde dans sa main. Il y a quelqu'un sur le trône. qui tient toute chose. Il y a quelqu'un qui tient ta vie dans sa main. Il y a quelqu'un qui tient ta vie. Dieu tient ta vie dans sa main. Amen. Il tient ton couple, il tient ta famille, il tient ton travail, il tient ton avenir. Peut-être tu as peur de ton avenir. Il tient ton avenir. Tu peux avancer avec sécurité. Tu peux t'abandonner entre les bras de Dieu. Parce qu'il y a un pilote dans l'avion de notre vie et de ce monde. Et lui, il ne nous emmènera pas dans les décors. Il va nous amener, comme on l'a entendu dans une prière, à bon port. Ou à bon aéroport, si on reste dans le... Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ça nous parle de là. Combien c'est précieux, combien Dieu est précieux. On est dans un autre univers et on a besoin de s'imprégner des réalités du royaume. On a besoin de respirer l'air du royaume. Il y a une ville, Grenoble, j'y ai travaillé pendant un moment, et c'est une ville qui est comme dans une cuvette. Et l'été, il fait extrêmement chaud, et c'est très pollué, et l'air est difficilement respirable, surtout en été. Et par contre, tout autour, vous avez des montagnes, et dès que vous montez, alors là, vous avez du deltaplane, vous avez toutes sortes, et là, vous respirez l'air pur. Et souvent, les Grenoblois, hop, montent le week-end ou après leur travail, ils montent pour respirer l'air pur. Et nous avons besoin aussi, dans ce monde pollué par le péché, avec toutes sortes d'influences contraires. Le prince de ce monde, qui veut nous tirer vers le bas, on a toutes sortes de pressions, c'est difficile la vie, ici-bas. Mais nous avons besoin de monter sur les montagnes spirituelles, dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, même à ton travail. Même dans ta famille, tu as la possibilité d'être ravi en esprit. Tu vis les réalités d'ici-bas, et Dieu va t'aider à bien les vivre, comme témoin de Jésus-Christ, mais avec un état d'esprit différent, parce que ton cœur, ton esprit, il est dans le ciel, il est auprès du Seigneur. Tu es auprès du trône et tu respires l'atmosphère du trône. Où là, tout est précieux, tout est pur. Autour du trône, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'arc-en-ciel, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la fidélité de Dieu. Ça fait penser à la fidélité de Dieu. Et quand on commence à monter et à respirer l'atmosphère du trône auprès de Dieu, on découvre la fidélité de Dieu. On redécouvre que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu t'a fait des promesses, mon frère, ma sœur. Si elles viennent de Dieu, elles s'accompliront. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Tu peux avancer, tu peux faire des pas avec lui. Dieu ne t'abandonnera pas. Quand on monte auprès du trône, on découvre ce Dieu fidèle. On s'approche de ce Dieu fidèle. Et on découvre que ce que Dieu a dit, ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Et puis, on va terminer là parce que l'heure arrive, mais on découvre ensuite qu'il y a toutes sortes d'êtres, de créatures, d'êtres vivants, de vieillards, etc. Et que l'activité principale, quand Jean va le découvrir, autour du trône, c'est d'abord la quiétude, la tranquillité, le calme, alors que tout s'agite, tout est désordre ici-bas. Et on a besoin d'être imprégné de cette réalité, de ne pas nous laisser agiter quand vous écoutez les informations, etc. Vous voyez, les gens sont agités, sont inquiets, ça court de droite, ça court de gauche. Mais nous, on a besoin de respirer un autre air, cette tranquillité du trône. Non pas parce qu'on va vivre, on va être désilluminé. Non, on est bien sur terre, mais on est imprégné de la réalité du ciel, de la pensée de Dieu. Dieu est sur son trône et il règne. Relisez les psaumes 11. Il y a quelqu'un sur le trône, quand les fondements sont ébranlés, il y a quelqu'un sur le trône. Ce trône, c'est Dieu. Sur ce trône, il y a Dieu et qui règne. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et puis, ce qu'on découvre également, c'est l'adoration, c'est la louange. L'occupation principale dans le ciel, c'est la louange, c'est l'adoration. Et on a besoin de vivre cette réalité, de nous imprégner de Dieu. Jean, certes, était toujours sur l'île de Patmos. Il y retournera, mais sa vision sera complètement différente. Et pour nous, peut-être c'est peut-être pas l'île de Patmos, peut-être c'est l'île de ton travail, peut-être c'est l'île de ton milieu familial, peut-être c'est l'île de ton quartier, que sais-je. Mais tu as besoin de monter pour vivre la réalité du trône, l'adoration, la louange, la présence de Dieu, le calme, la fidélité de Dieu. Et puis de voir avec les perspectives de Dieu la manière dont les événements se déroulent et de réaliser que, tout est dans la main de Dieu, et particulièrement ta vie, particulièrement l'Église.